Chapitre 2. Les accusations. Madame Rogers montre sa chambre à Vera. Elle porte une petite robe noire et a les cheveux en arrière. Sa voix est plate et sa peau est très blanche. De quoi cette femme a-t-elle peur ? Se demande Vera.
Je suis la nouvelle secrétaire de Madame Onim. Vous le savez ?
Non, je ne sais rien.
Je connais simplement la liste des invités avec la chambre de chacun.
Je n'ai jamais vu Madame Onim. Rogers et moi sommes ici depuis avant-hier. Nous sommes les seuls domestiques.
Ces Onim sont incroyables. Il y a un seul couple pour s'occuper de 8 personnes. Madame Rogers quitte la chambre et Vera s'assied devant la fenêtre. La situation est vraiment bizarre, et les invités aussi sont bizarres. La chambre est très belle. Vera lit la comptine au-dessus de la cheminée. Elle la connaît depuis son enfance. 10 petits soldats s'en furent souper. L'un d'eux but à s'en étouffer. N'en resta plus que 9. 9 petits soldats veillèrent très tard. L'un d'eux dormit plus que sa part. N'en resta plus que 8. 8 petits soldats flânèrent de ci, de là. Dans le Devon, l'un s'installa. N'en resta plus que 7. 7 petits soldats débitaient du petit bois. En 2 moitiés, l'un se coupa. N'en resta plus que 6. 6 petits soldats s'amusaient au rucher. Par une abeille, l'un fut piqué. N'en resta plus que 5. 5 petits soldats étudiaient le droit. L'un d'eux fut nommé juge, ma foi. N'en resta plus que 4. 4 petits soldats prenaient un bain de mer. Poisson d'avril, gobalin, ô ma mère. N'en resta plus que 3. 3 petits soldats visitaient le zoo. Un ours prit l'un entre ses crocs. N'en resta plus que 2. 2 petits soldats se chauffaient au soleil. L'un d'eux grilla jusqu'aux orteils. N'en resta donc plus qu'un. 1 petit soldat se retrouva solitaire. Il alla se pendre. Quelle misère! N'en resta plus aucun. Vera sourit.
Bien sûr, on est sur l'île du soldat.
Elle regarde la mer par la fenêtre. Elle est calme aujourd'hui, mais la mer est parfois dangereuse. Noyée, noyée. Non, elle ne veut pas y penser. Tout est fini maintenant.
Le docteur Armstrong arrive sur l'île du soldat au moment du coucher de soleil. Il est fatigué par son voyage. La mer va lui faire du bien. Il ne peut pas prendre de vacances, sinon sa clientèle va l'oublier. Mais ce soir, il veut en profiter. Sur une île, on laisse sa vie ordinaire derrière soi. Quand il arrive sur la terrasse, il reconnaît le vieil homme assis dans un fauteuil. C'est le juge Wargrave. Armstrong l'a rencontré dans un tribunal. Le juge a toujours un air endormi, mais c'est un homme dur. Il condamne parfois sans véritable preuve. Le juge se souvient du médecin. Pour lui, tous les médecins sont des imbéciles, et ceux de Harley Street sont les pires. Le docteur veut aller se présenter au Onim, mais le juge lui explique.
« C'est impossible, ils ne sont pas là. La situation est très étrange. Je ne comprends rien à cet endroit.
Vous connaissez Constance Culmington ?
Je ne pense pas.
Tant pis. Cette femme a une écriture très difficile à lire. Je suis peut-être à la mauvaise adresse. »
Le juge pense aux 3 femmes présentes sur l'île. Il n'aime pas la plus jeune. Elle doit être sans scrupules. Madame Rogers, elle, est morte de peur.
Il voit Rogers sortir sur la terrasse et il lui demande
« Lady Constance Cunnington doit-elle venir sur l'île ?»«
Non, je ne pense pas. »
Anthony Marston est dans son bain. Cela lui fait du bien après ce long voyage en voiture. Il ne pense à rien. C'est plutôt un homme d'action. Un bain, un cocktail, un dîner, et après.
Monsieur Blore vérifie ses habits. Parfait. Les invités n'ont pas été très aimables avec lui. Chacun se méfie des autres.
Mais il doit bien faire son travail.
Il remarque la comptine au-dessus de la cheminée. C'est étonnant de revenir ici après toutes ces années. Le général MacArthur est inquiet. La situation est très étrange. Malheureusement, le bateau est déjà reparti et il ne peut pas quitter cette île. Il est sûr d'une chose, Lombard est un drôle de type. Philippe Lombard sort de sa chambre quand on appelle pour le dîner.
Il se dirige vers l'escalier sans bruit et en souplesse, comme une panthère. Il ressemble en effet à cet animal agréable à regarder. Il sourit. Il va bien profiter de cette semaine. Emily Brent lit la Bible dans sa chambre. Les païens tombent dans le trou qu'ils ont creusé. Elle pince ses lèvres, referme la Bible, se lève, accroche une broche sur sa tenue et descend dans la salle à manger. À la fin du dîner, les invités se sentent de meilleure humeur. La nourriture est bonne, le vin est parfait et Rogers fait bien le service. Ils parlent entre eux avec beaucoup de facilité. Le juge amuse le docteur Armstrong et Tony Marston. Mademoiselle Brent et le général MacArthur découvrent des amis communs. Monsieur Davis répond aux questions de Vera sur l'Afrique du Sud. Lombard observe les invités les uns après les autres.
« Ces figurines de porcelaine au centre de la table sont originales, » dit Marston.
« Ce sont les soldats de l'île aux soldats, c'est ça ?»«
Ce sont les 10 soldats de la comptine, » dit Vera. « Elle est accrochée dans ma chambre. »
La comptine est accrochée dans toutes les chambres.
« Quelle drôle d'idée !» dit le juge.
Emily Brent et Vera se lèvent et s'installent dans le salon. Le bruit des vagues entre par les portes-fenêtres. Emily aime ce bruit, mais Vera le déteste.
Madame O'Neill a eu de la chance de trouver les Rogers. La femme cuisine bien.
Oui, les O'Neill ont beaucoup de chance.
Les O'Neill ? C'est la première fois que j'entends ce nom.
Les hommes les rejoignent. Le juge s'assied près d'Emily Brent. Armstrong s'approche de Vera. Marston va vers la fenêtre ouverte. Blore examine une sculpture en bronze. MacArthur pense à l'excellent dîner et se sent de bonne humeur. Lombard lit un journal. Rogers vient leur servir un café très noir et bien chaud. Ils sont tous heureux de leur vie. Soudain, à 9h20, une voix s'élève dans la pièce.
« Silence, s'il vous plaît !»
Qui parle ? Les invités regardent autour d'eux sans comprendre.
« Je vous accuse des crimes suivants. » Edward George Armstrong, de la mort de Louisa Marie Kless, le 14 mars 1925.
Emily Caroline Brent, de la mort de Béatrice Taylor, le 5 novembre 1931.
William Henry Blore, de la mort de James Stephen Landor, le 10 octobre 1928.
Vera Elizabeth Claythorne, de la mort de Cyril Ogilvy Hamilton, le 11 août 1935.
Philippe Lombard, de la mort de 21 personnes d'une tribu d'Afrique orientale en février 1932.
John Gordon MacArthur, de la mort d'Arthur Richmond, l'amant de votre femme, le 14 janvier 1917.
Anthony James Marston, de la mort de John et Lucy Combs, le 14 novembre de cette année.
Thomas et Ethel Rogers, de la mort de Jennifer Brady, le 6 mai 1929.
Lawrence John Wargrave, de la mort de Edward Seton, le 10 juin 1930. Avez-vous quelque chose à dire pour votre défense ?
Un bruit violent retentit. C'est Rogers qui vient de laisser tomber le plateau du café. Puis, ils entendent un cri à l'extérieur de la pièce. Lombard se précipite et trouve Madame Rogers au sol. Marston vient l'aider et il l'allonge sur le divan du salon.
« Ce n'est rien !» dit le docteur Armstrong. « Elle va vite se sentir mieux. « Allez chercher du cognac !» dit Lombard à Rogers.
Rogers sort, pâle et les mains tremblantes.
« Qui parlait ?» s'écrie Vera. « Où était-il ? »
« C'est une mauvaise plaisanterie !» dit MacArthur.
Blore s'essuie le visage avec un mouchoir. Seuls Wargrave et Mademoiselle Brent gardent leur calme. Le juge se gratte l'oreille et ses yeux font le tour du salon. Lombard cherche d'où peut venir la voix. Il ouvre une porte à côté de la cheminée.
« Cela vient d'ici !»
Les autres, sauf Mademoiselle Brent, se précipitent derrière lui. Un vieux gramophone est installé sur une table contre le mur. Lombard montre du doigt de petits trous dans le mur. Il pose l'aiguille sur le disque.
« Vous êtes accusé de... »«
Arrêtez ça !»
crie Vera.
« C'est horrible !»«
C'est une blague cruelle !» dit le docteur Armstrong.
Le juge n'a pas encore d'opinion. Marston se demande qui a mis l'appareil en route. Ils retournent tous dans le salon. Rogers les rejoint avec un verre de cognac. Il se penche vers sa femme. « Ethel, tu m'entends ? Tout va bien, reprends-toi. »«
C'est fini, madame, » dit le docteur. C'était un simple malaise.
« Je me suis évanoui ? C'est cette voix horrible !»
Madame Rogers se sent de nouveau mal. Le docteur lui donne à boire le verre de cognac.
« Moi aussi, cela m'a choqué, » dit Rogers. « Ce ne sont que des mensonges et je... »
Il s'arrête car le juge Wargrave lui demande.
« C'est vous qui avez posé le disque sur le gramophone ?»«
J'ai obéi aux ordres de Monsieur Onim. Je devais poser le disque et ma femme devait le mettre en marche au moment où j'entrais avec le plateau de café. »
« Voilà une histoire bien extraordinaire, » dit le juge.
« Je jure que c'est la vérité. Pour moi, c'était un disque de musique. »«
C'est vrai, » intervient Lombard. « Il y a écrit « Le chant du cygne » sur le disque. »
Rogers et le docteur Armstrong accompagnent Madame Rogers dans sa chambre. Le docteur lui donne un médicament pour dormir. Il retrouve ensuite les invités au salon qui boivent un verre. Le juge interroge Rogers sur Monsieur Onim.
Le majordome n'a jamais vu son patron. Sa femme et lui ont trouvé ce travail grâce à l'agence Regina de Plymouth. Tout était prêt à leur arrivée dans la maison et les courses étaient faites. Ils ont simplement préparé les chambres. Ils ont reçu hier une lettre de Monsieur Onim. Il annonçait son retard et leur expliquait le gramophone. Le juge et Blore lisent la lettre. Marston remarque le prénom compliqué, Algernon Norman. Le juge propose à chaque invité d'expliquer sa présence sur l'île. Vera Claythorne et Marston sont ici à titre professionnel. Emily Brent, Marston, le juge, MacArthur et Lombard sont invités par des amis plus ou moins proches.
« Il n'y a pas de Davis dans la liste d'accusations, » dit le juge. « Par contre, il y a un Blore que je ne vois pas parmi nous. Je vous avoue, dit le faux Davis. Je m'appelle Blore.
Vous utilisez un faux nom, dit Lombard. Expliquez-vous. Je connais bien l'Afrique du Sud. Vous ne venez certainement pas de là-bas.
Je suis un ancien policier et je dirige maintenant une agence de détectives privés. Monsieur Onim m'a engagé pour un travail. Je devais vous surveiller à cause des bijoux de Madame Onim. Mais maintenant... « Je crois que cette personne n'existe pas. »
Le juge remarque les prénoms de Onim dans toutes les lettres. Ils sont différents, mais leurs initiales sont les mêmes. A et N. Onim. Anonyme. Ce monsieur n'a pas de nom.
« C'est incroyable !» s'écrie Vera.
« En effet, nous sommes invités par un fou qui est aussi un dangereux personnage. »